Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une émission de sortir du patriarcat, capitalisme. Nous sommes toujours avec Sophia pour parler de l'ouvrage de Carol Peitman, Le contrat sexuel, qui est donc paru aux éditions La Découverte en 2010 en français. Et dans une première partie de l'émission, on a procédé à une présentation générale du contrat sexuel, de ses thèses, de ses différents chapitres. Et avant de passer donc dans cette deuxième partie aux limites et aux critiques qui ont été faites au contrat sexuel et comment est-ce qu'on peut éventuellement dépasser ces limites, on voulait revenir sur quelque chose qu'on a moins abordé dans la première partie de l'émission. C'est la critique proprement anticapitaliste, qui s'articule d'ailleurs toujours à une critique du patriarcat, de Carol Peitman. Et je voudrais notamment commencer par une citation, page 94, où elle fait une critique assez implacable du salariat. « Dans une entreprise capitaliste, lorsqu'un travailleur passe d'un service à un autre, ce n'est pas parce qu'il a librement négocié avec son employeur et conclu un nouveau contrat, c'est parce qu'on lui a ordonné de le faire. Une entreprise n'est pas une société contractualiste en miniature, constituée à travers une série continue de contrats successifs. Dans le contrat de travail, le travailleur accepte, en échange d'une certaine rémunération, d'obéir aux instructions d'un entrepreneur dans certaines limites. C'est la prérogative de l'employeur que de diriger le travail de son employé. Le contrat crée une relation de subordination. » Et par là, Carol Peitman, et ça c'est quelque chose d'assez original dans la critique anticapitaliste, elle critique l'idée qu'on pourrait séparer la force de travail de l'individu lui-même. Et c'est justement, c'est lié au fait qu'elle insiste beaucoup sur la subordination, comme on l'a dit dans la première partie de l'émission. Et du coup, elle dit, c'est pas d'un côté l'individu, voilà, il vend sa force de travail, elle se balade, pendant 8 heures, elle fait son taf, et après elle revient. En réalité, l'individu complet est engagé dans une relation de subordination. Et là pour le coup, il y a une certaine analogie avec le mariage, sauf que c'est pas simplement l'individu comme force de travail qui est engagée dans le mariage, mais la totalité de la personne.
Mais c'est aussi que Carol Peitman souligne que le concept de force de travail semble induire que l'individu est complètement étranger à la création, enfin au développement de sa force de travail. Mais alors, Carol Peitman souligne bien que finalement, c'est parce que l'individu a développé telle compétence ou a développé telle caractéristique par son propre travail personnel, si je puis dire, qu'il a une telle force de travail apte à être mise sur le marché des forces de travail. Et du coup, finalement, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, d'une part, comme tu l'as dit, le concept de force de travail, enfin que la subordination de l'individu par l'entreprise capitaliste est comme tu l'as décrite, mais qu'en plus, sa force de travail ne peut pas être détachable du fait qu'il a participé à sa propre création.
Oui, et là, on a une articulation très claire avec sa critique du patriarcat, puisque précisément la formation de cette force de travail et aussi la qualification, la reconnaissance professionnelle des qualités et de cette force de travail sont aussi modifiées, biaisées, influencées par le patriarcat, puisque les compétences professionnelles des femmes vont être systématiquement dévalorisées par la naturalisation. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les services à la personne, les tâches ménagères, etc., sont si mal payés, c'est parce qu'on ne reconnaît pas ça comme des compétences professionnelles, mais qu'on reconnaît ça comme des dons de la nature. Et finalement, là, le patriarcat et le capitalisme font très bon ménage, puisque le patriarcat a des ménagères qui font du travail ménager gratuit, et le capitalisme a une force de travail beaucoup moins chère.
Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Peitman souligne même que si des ménagères, enfin des femmes au foyer, auraient voulu être payées pour leur travail ménager, elles n'auraient pas pu parce que légalement, c'est interdit d'inscrire dans un contrat de travail la rémunération de l'épouse pour son travail domestique. Et du coup, là, l'État, le capitalisme et le patriarcat sont tous les trois très bien.
Oui, et ça, c'est très intéressant parce que ça fait écho à une critique féministe qui répond un petit peu à une critique, disons, marxiste de la marchandisation des relations sociales, et qui est de dire que, enfin, dans le cas d'une société capitaliste et patriarcale, il vaut mieux au moins vendre ses services ménagers ou ses services sexuels, même si la Bateman n'est pas forcément d'accord avec ça, mais au moins dans notre position, il vaut mieux parfois vendre quelque chose pour au moins en tirer un profit que de tout faire gratuitement. Et on peut critiquer la marchandisation des relations sociales, mais si on prend la situation de la femme au foyer victorienne au XIXe siècle, elle marchandise aucun de tous les services qu'elle fournit à l'homme et à la société capitaliste et patriarcale, mais on voit pas en quoi est-ce que c'est très enviable. Il vaut mieux à la limite vendre ce qui sinon est gratuit.
Mais finalement, même si les femmes essayent de vendre ce qui aurait dû être gratuit, comme le souligne Bateman, le caractère patriarcal du capitalisme fait que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, il va y avoir une dévalorisation de leurs compétences, du coup, des salaires plus bas que ce qui aurait été payé à un homme pour le même travail. Et finalement, tout ça est causé par la division sexuelle du travail qui fait que même des femmes pourraient pas être concurrentes directes d'hommes, mais finalement assignées à des tâches différentes. Et finalement, Bateman, ce qui est aussi intéressant dans son analyse critique du capitalisme en tant que le caractère patriarcal du capitalisme, elle souligne que la division sexuelle du travail, elle engendre une fraternité ouvrière, mais elle parle bien de fraternité. Et finalement, elle souligne que le mouvement ouvrier a en lui-même un caractère patriarcal très fort et il a défendu ses privilèges de manière très puissante et donc a refusé de s'allier aux côtés des travailleuses lors de la transformation de... Enfin, Bateman parle de transformation en ménagère et finalement le mouvement ouvrier a décidé de s'attacher à ses privilèges plutôt que de s'ouvrir à la main-d'œuvre féminine pour qu'elle aussi soit rémunérée. Et donc Bateman souligne aussi à la fois dans l'histoire et dans le mouvement ouvrier l'invisibilisation des femmes travailleuses. Alors même qu'elle souligne qu'en 1931, il y avait deux fois plus de domestiques femmes que de mineurs en Angleterre. Alors que la figure symptomatique du révolutionnaire prolétaire, c'est le mineur et clairement pas la femme domestique. En cela, Bateman souligne que le caractère patriarcal du mouvement ouvrier réaffirme aussi la domination sexuelle des ouvriers sur leurs épouses, dans le sens où eux-mêmes ont besoin de la réalisation de leur contrat sexuel domestique pour être valorisés socialement et pour que leur qualité de travailleur soit réaffirmée.
Oui, et par rapport à ça, ça fait écho aux travaux de Sylvia Walby dans un ouvrage qui s'appelle Patriarchy at Work, où elle montre comment est-ce que certaines lois sociales en Angleterre au XIXe siècle sont une sorte de compromis entre les capitalistes et les ouvriers, qui évidemment n'ont pas les mêmes intérêts, même par rapport au patriarcat, c'est-à-dire que les ouvriers auraient intérêt à ce que leurs femmes ne travaillent jamais en dehors de la maison et soient uniquement des bonnes à tout faire, gratuites chez elles. Et les capitalistes auraient intérêt quand même à avoir de la main-d'œuvre pas chère et qu'elles travaillent quand même un minimum. Et finalement, le contrat, ça va être un peu la double journée, quoi. Ça va être que, ok, les femmes peuvent travailler, mais dans un certain nombre de limites. Ségrégation horizontale, c'est-à-dire qu'elles auront certains secteurs, mais pas d'autres. Il y aura des secteurs qui seront réservés aux hommes, les secteurs les plus qualifiés, les mieux payés, hein, évidemment, et puis une ségrégation verticale, c'est-à-dire que les femmes ne pourront pas occuper des emplois qui sont hiérarchisés. Voilà, donc finalement, le capitalisme paye moins les femmes, mais bénéficie quand même d'une main-d'œuvre pas chère, et les hommes s'y retrouvent aussi parce que ça fait un salaire d'appoint, voilà, un petit salaire. En plus du leur, mais ça permet pas aux femmes d'être économiquement indépendantes et elles restent à la maison.
Et même d'un point de vue plus symbolique, un exemple souligné par Sylvia Walby est l'interdiction du travail de nuit aux femmes, qui a été vantée par le mouvement ouvrier comme une victoire face aux capitalistes, une espèce de victoire du mouvement ouvrier qui serait parvenue à permettre aux femmes d'être avec leurs enfants la nuit, tandis que les ouvrières, à ce moment-là, se battaient justement pour avoir le droit de travailler la nuit parce qu'il s'agissait de travail mieux rémunéré que le travail de jour, tout simplement. Et finalement, d'un point de vue symbolique, je pense que c'est très fort pour les hommes d'interdire aux femmes la nuit, enfin l'accès à la nuit, l'accès à la sphère publique la nuit, et justement de les reclure chez eux. Pour moi, c'est assez fort.
Oui, et justement, parce qu'on parlait de compromis, on peut parler même de convergence entre le mouvement ouvrier et les capitalistes sur la question des femmes à certains moments, notamment sur le fait que voilà, les femmes sont dévalorisées dans leurs compétences professionnelles et donc moins payées. Et là, on peut même dire qu'il y a une espèce de continuité entre le fait que les femmes sont mal payées et le fait qu'elles ne sont pas payées chez elles. Et finalement, c'est aussi parce qu'elles ne sont pas payées pour ce qu'elles font chez elles que ce qu'elles font, que lorsqu'elles font la même chose à l'extérieur, ça a si peu de valeur. Puisque précisément, il y a plein de femmes qui le font gratuitement. Donc, quand on paye pour ces mêmes services, notamment les services à la personne, le ménage, etc., on trouve ça normal que ce soit mal payé, puisque normalement, ça devrait être les femmes qui le font gratuitement.
Mais en fait, Carol Pateman résume ce que tu viens de dire avec la phrase suivante, que les femmes sont considérées comme étant des femmes avant d'être des travailleuses. Et c'est tout à fait ça, finalement, naturellement, c'est des femmes, par exception des travailleuses, mais de manière essentielle, elles ont des caractéristiques typiquement féminines, et du coup, demander un salaire pour ça, ça serait quand même fort de café, quoi.
Et par rapport à ça, elle raille un petit peu une citation du mouvement anarchiste qui dit « Aucun homme n'est assez bon pour être le maître d'un autre ». Et on peut se demander du coup si, selon ce même slogan anarchiste, un homme serait assez bon pour être le maître d'une femme. Et effectivement, ça c'est un point qu'on a abordé dans une émission avec Francis Dupuy-Déry, de la critique du sexisme dans l'anarchisme, dans la théorie et dans la pratique anarchiste, c'est que il y a malheureusement pas tellement, en dehors des anarcha-féministes, de critiques anarchistes du patriarcat. Et Pateman va même plus loin. Elle dit que le socialisme d'une bonne partie des théoriciens socialistes présuppose l'existence d'une femme au foyer, qui finalement va s'occuper d'un certain nombre de tâches ménagères. C'est-à-dire que finalement, le socialisme, par son apologie du travail, non seulement pas toujours très émancipateur vis-à-vis du capitalisme, mais aussi, par contre-coup, dévalorise ce qui n'est pas considéré comme un travail, mais considéré simplement comme des tâches ménagères. Et elle pointe bien, dans le 8e chapitre, du coup, qui s'appelle « La fin de l'histoire », Pateman, que finalement, Rousseau et Proudhon rejettent l'ordre étatique et le salariat, mais notamment grâce à la subordination des femmes. C'est-à-dire que Proudhon envisage son socialisme... de mutualiste, de coopérative et tout, basé sur une sphère publique du travail, émancipée du capital, mais qui est complètement, qui repose fondamentalement sur l'exclusion des femmes, un petit peu comme dans la Grèce antique finalement, où la démocratie athénienne reposait sur l'exclusion des femmes et des esclaves aussi, il faut bien le dire. Et donc finalement, ce qu'on peut conclure avec Pateman, c'est qu'il faut une critique radicale du patriarcat moderne et du capitalisme, une critique qui doit être faite de manière conjointe, sans pour autant dissoudre l'un dans l'autre, sans pour autant arriver, comme le féminisme marxiste, à considérer que le patriarcat finalement n'est que quelque chose qui est fonctionnel au capitalisme. Il faut critiquer de front les deux, comme étant des systèmes qui sont à la fois spécifiques et des systèmes en même temps qui sont l'un dans l'autre, d'une certaine manière, qui sont codépendants, co-constitutifs. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle fait naître le patriarcat moderne et le capitalisme au même endroit et au même moment, au XVIIe siècle, en Angleterre. Après, pour passer sur les limites de Pateman et les critiques, on peut reconnaître à Pateman une certaine autocritique dans le chapitre 8, c'est-à-dire qu'elle affirme bien que les contractants du contrat originel sont des hommes blancs. Et donc elle dit, finalement, j'ai raconté la moitié de l'histoire avec le contrat sexuel, la moitié qui manquait finalement, et bien elle dit finalement, c'est un peu moins. En fait, il y a un contrat blanc, un contrat sexuel et un contrat de classe. Le contrat de classe, comme l'a signalé Charles Mills, qui s'est beaucoup inspiré de Pateman pour écrire The Racial Contract, donc le contrat racial. Le contrat finalement de classe était déjà critiqué chez Rousseau, il est critiqué chez les marxistes. Mais c'est vrai que dans le livre de Pateman, s'il y a une bonne critique du contrat sexuel, il manque encore la critique du contrat raciste. Et là où on peut dire que Pateman a quand même su dépasser ses propres limites, en partie à ce sujet-là, c'est que dans un ouvrage qu'elle a publié en 2007, donc son ouvrage s'appelait Contract and Domination, donc Contrat et Domination, qu'elle a publié donc avec Charles Mills, elle a écrit un chapitre qui est très intéressant, qui s'appelle le Settler Contract, où elle théorise un contrat racial qui tient en deux points. C'est que le contrat entre hommes blancs dans les sociétés aux États-Unis et en Australie, c'est les deux cas qu'elle prend, souvent d'ailleurs, elle prend aussi celui de l'Angleterre, en général c'est les trois. En Australie et aux États-Unis, le contrat, le settler contract, c'est-à-dire le contrat des colons, le contrat des colons blancs, c'est à la fois un contrat qui efface l'existence des sociétés amérindiennes, c'est-à-dire qui fait comme s'il y avait un état de nature avant. C'est là où la fiction philosophique est utilisée dans la réalité. La notion fondatrice du droit australien jusqu'à très récemment, jusqu'en 1992, de 1788 à 1992, c'est l'idée de terra nullius. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait personne avant. Il n'y avait personne, les aborigènes n'existaient pas, c'est l'état de nature. Et donc, les premiers qui établissent une société, un ordre politique, c'est finalement les colons. Et donc, évidemment, tous ceux qui n'ont pas participé à ce contrat, en l'occurrence les Amérindiens aux États-Unis et les aborigènes, on leur dénie l'existence d'une société, on leur dénie évidemment toute participation à l'ordre politique. Et après, autre chose originale, elle dit que ce contrat de colons, il se manifeste aussi par les traités inégaux de spoliation des terres. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, mais le colonialisme, ce n'est pas uniquement que la violence et la guerre, c'est aussi des contrats. C'est des contrats inégaux. Et il y a des empires qui se sont constitués sur des contrats inégaux. Une bonne partie des terres des Amérindiens aux États-Unis ont été spoliées par le biais de contrats. Bon, évidemment, ils n'avaient pas le choix. Mais est-ce que, finalement, ce n'est pas le cas dans énormément de contrats ? On peut dire qu'elle a pris en compte le contrat racial dans ses travaux ultérieurs. Par contre, le grand problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment pris en compte, même dans ses travaux ultérieurs, la spécificité de la place des femmes racisées, enfin du contrat que Mills appelle le racial sexual contract, c'est-à-dire le contrat racial-sexuel. Elle n'a pas vraiment réussi à le théoriser. Tout ce qu'elle arrive à faire, finalement, dans Contract and Domination, c'est dire que les femmes noires et les femmes blanches ont un vécu différent aux États-Unis, mais elles ne le théorisent pas vraiment. Et elle critique le fait qu'il y a du racisme dans le féminisme blanc aux États-Unis au XIXe siècle.
Mais finalement, dans le contrat sexuel, la place des femmes noires, quand elle est examinée par Carol Pateman, c'est que quand il s'agit de femmes esclaves, donc une situation spécifique aux populations noires. Mais finalement, ensuite, la norme des femmes qui vont être examinées par Pateman, c'est clairement des femmes blanches. Et finalement, en fait, ce qui manque cruellement à Pateman, c'est une analyse intersectionnelle qui prendrait que finalement Charles Mills semble faire avec Racial and Sexual Contracts, c'est d'analyser ensemble le contrat sexuel et le contrat racial pour être à même de théoriser la situation des femmes noires non esclaves aux États-Unis. Mais finalement, je me demande si est-ce que l'analyse de Pateman qui repose sur la critique du contrat, elle n'est pas intrinsèquement non intersectionnelle, dans le sens où l'intersectionnalité permet de plutôt que de s'attacher au... Parce qu'un contrat est conclu entre deux personnes et gomme justement les inégalités ou les différences des co-contractants pour les mettre sur un pied d'égalité théorique. Mais finalement, l'intersectionnalité, dans la mesure où ça s'attache à analyser, prendre en compte à la fois le genre, la classe, la race, la sexualité, etc., pour arriver à théoriser la situation spécifique des individus, et dans la mesure où c'est intrinsèquement non contractualisable, parce qu'il s'agit de la situation presque essentielle de l'individu, est-ce que finalement, une analyse par le biais du contrat, elle n'est pas intrinsèquement non intersectionnel.
Enfin, en tout cas, Pateman ne parvient pas à vraiment développer une analyse intersectionnelle en termes de contrat, potentiellement parce que ce n'est pas possible. Charles Mills y arrive, mais parce qu'il le dit lui-même dans cet ouvrage Contract and Domination, il dit parce qu'il a un usage plus métaphorique et plus philosophique en fait, du contrat, c'est-à-dire du contrat social. Il ne cherche pas des contrats concrets comme le salariat ou le mariage pour illustrer. C'est-à-dire que pour lui, c'est plus une espèce de fiction qui permet de comprendre une situation sociale à un moment donné. Et donc, par exemple, lui, ce qu'il fait dans son chapitre 6 de Contract and Domination, avec sa théorie du contrat racial-sexuel, racial-sexuel, c'est que la société serait organisée sur un contrat social qui diviserait la société en quatre, avec les contractants qui sont les hommes blancs, qui sont tout en haut de la pyramide. Deux positions, les femmes blanches et les hommes noirs, qui sont dans une position intermédiaire que lui, il appelle des sous-contractants, c'est-à-dire des gens qui ne contractent pas directement, mais qui indirectement ont contracté parce qu'ils partagent une caractéristique commune avec les contractants. Donc les hommes noirs, finalement, ils sont des sous-contractants parce que malgré tout, ils bénéficient quand même de la masculinité. Et les femmes blanches, finalement, sont des sous-contractantes parce que malgré tout, elles ont en commun avec les contractants d'être blancs. Et du coup, l'un comme l'autre groupe bénéficie de certains privilèges. D'une part, les privilèges liés à la masculinité pour les hommes noirs et d'autre part, les privilèges liés à la blanchité, entre guillemets, pour les femmes blanches. Alors même si, Mills, en tout cas, prenant l'exemple des États-Unis, dit que la situation des femmes blanches aux États-Unis reste quand même plus favorable que celle des hommes noirs. Je pense que la prééminence d'une forme de domination sur une autre, bon, c'est toujours quelque chose d'assez discuté, d'assez discutable. C'est vrai qu'aux États-Unis, au 19e siècle, on peut dire globalement que la situation des femmes blanches est clairement meilleure que celle des hommes noirs. Et après, par contre, évidemment, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des non-contractants absolus, des non-contractantes absolues qui sont les femmes noires et qui, elles, sont soumises à la fois aux hommes blancs, mais aussi, et ça c'est quelque chose que les féministes d'une part et les antiracistes d'autre part oublient, mais c'est que les femmes noires sont aussi soumises par le biais d'une espèce de contrat racial sexuel à la fois aux hommes noirs, donc elles doivent aux hommes noirs le devoir conjugal, les tâches ménagères, etc., des choses d'ailleurs dont Pateman parle, et elles doivent aux femmes blanches de les aider contre une rémunération extrêmement faible à leurs tâches ménagères. Donc là, on a une description finalement de la société américaine au 19e siècle. Une société qui est basée sur, effectivement, un patriarcat afro-américain qui est extrêmement faible parce qu'il est dans les geôles de l'esclavage, mais qui existe quand même malgré tout. Et d'autre part, les femmes noires qui sont subordonnées aux femmes blanches, pas simplement aux hommes blancs, parce que les femmes blanches les emploient pour les aider... pour les aider, entre guillemets, dans leurs tâches ménagères.
En fait, ce que tu dis, ça me confirme dans l'idée qu'une analyse de la situation des femmes noires par le truchement de l'analyse du contrat, qu'il s'agisse du contrat social philosophique ou des contrats réels, elle est limitée, parce que tu disais que finalement, effectivement, les femmes noires, elles sont soumises à la fois aux femmes blanches et aux hommes noirs et aux hommes blancs, mais finalement, l'intersectionnalité, c'est pas une histoire de qui est soumis à qui. Pour moi, c'est une histoire de dans quelle mesure la situation des femmes noires, Même quand elles sont soumises aux hommes blancs comme le sont les femmes blanches, elle est spécifique du fait de leurs caractéristiques de femmes noires. Et du coup, finalement, si on parle qu'en termes de soumission ou de contractant, pour moi, on oublie une grande partie de l'intersectionnalité. Mais enfin, on en reparlera peut-être plus tard dans le cadre d'une autre émission. Mais enfin, en tout cas, j'ai l'impression que finalement, l'analyse par le truchement du contrat, elle ne peut être que limitée parce qu'elle omet, ouais, elle omet une grande partie de l'intersectionnalité.
Oui, oui, non, mais ça c'est clair. Je pense que la tentative de Charles Mills, elle est louable. Elle est assez intéressante sur certains aspects, mais ça reste hyper général, hyper schématique, et pas si pertinent que ça. Après, on peut dire qu'il a mieux réussi quand même que Bateman, et notamment l'idée quand même d'avoir voulu penser un contrat racial sexuel, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'évidemment, c'est limité en termes d'intersectionnalité. Et finalement, même si finalement Pateman en 2007 et puis Mills encore plus arrivent à sortir de certaines ornières du livre, donc Le Contrat Sexuel, notamment il y a quand même une critique des féministes blanches américaines qui n'était pas là dans le Contrat Sexuel, pas de manière très centrale. Alors que dans l'article de Pateman, c'est quand même assez important. Il y a, au moins dans l'article de Mills, l'idée qu'il y a quand même une position très différente entre les femmes blanches et les femmes noires. Bon, malgré tout, effectivement, c'est probablement des limites de Pateman qu'il n'est pas possible de dépasser dans le cadre d'une critique du contrat patriarcal, quoi.
Mais finalement, c'est peut-être parce que, aussi, tout simplement, l'analyse de Pateman est centrée autour de la variable sexe, parce que c'est une féministe radicale, quoi. Et du coup, finalement, effectivement, si sa grille de lecture repose uniquement sur le sexe de l'individu, finalement, l'ensemble des autres caractéristiques, qu'il s'agisse de la classe ou de la race, ça passe après, quoi.
Oui, oui, et ça, c'est peut-être... Enfin, c'est effectivement la grosse faiblesse des analyses des féministes radicales. C'est une forme de réductionnisme au sexe, un petit peu comme certains marxistes, finalement, ont tombé sur une forme de réductionnisme économiciste. C'est-à-dire, on explique tout par l'économie. Là, chez les féministes radicales, il y a une certaine tendance à tout expliquer par le sexe, d'où aussi une monofocalisation sur les questions de travail du sexe, d'exploitation sexuelle, etc. Et une attention beaucoup moins importante, par exemple, sur le travail domestique, le care forcé, dont parle Nakano Glenn, qui est celle qui a le plus étudié justement les relations de subordination entre les servantes noires et les femmes de classe moyenne blanche aux États-Unis au 19e siècle. Et finalement, ce réductionnisme, il a aussi comme conséquence néfaste, et ça c'est très clair chez Pateman, et ça pour le coup elle ne l'a pas dépassé, c'est sa transphobie. Et son refus, pas complet, mais assez large quand même, du concept de genre. C'est-à-dire que finalement elle définit les femmes comme une classe de sexe, ce qui revient quand même à une certaine forme d'essentialisation et de naturalisation. Alors effectivement, elle a beau jeu de dire oui, mais en fait c'est parce que effectivement dans le travail sexuel il y a une grande partie des hommes qui recherchent des attributs sexuels biologiquement entre guillemets féminins entre guillemets. Mais enfin, je veux dire, on peut pas expliquer tout le patriarcat uniquement par je suis peut-être un peu cru, mais par la forme de l'appareil génital. Enfin, c'est un peu ça le problème, je pense encore une fois, du réductionnisme. Et transphobie parce que, Pateman a quand même parle quand même de les hommes insatisfaits de leur orientation sexuelle peuvent devenir transsexuels et se transformer en simulacres de femmes. Donc là, on a... C'est d'ailleurs intéressant ce concept de simulacre de femme parce que finalement le simulacre ça s'oppose au naturel. Et donc finalement Pateman, qui est quand même une critique du patriarcat assez radicale, finalement dit non mais il y a quand même les vraies femmes et les vrais hommes. Bon, et je pense d'ailleurs tout l'impasse du féminisme radical.
Ouais, et en plus cette phrase c'est un combo parce que c'est également une homophobie énorme en disant que finalement quand tu es insatisfait de ton orientation sexuelle hétérosexuelle de facto, en fait. Tu peux même pas devenir homosexuel, il faut que tu changes de genre. Enfin, là, ça révèle toutes les limites relativement graves de l'analyse de Pateman, qui est clairement homophobe et transphobe.
Elle a aussi des propos méprisants pour les personnes intersexes, qui représentent quand même 1,5% de la population mondiale. Donc des individus qui ont des caractéristiques sexuelles qui sont ni exclusivement masculines, ni exclusivement féminines. Et elle dit... Un corps humain, sauf en cas d'infortune de naissance, n'est pas en même temps mâle et femelle. Donc, elle pathologise, en fait, une partie quand même assez conséquente de la population mondiale. Alors, évidemment, tout ça est fait, comme très souvent chez les féministes radicales, et malheureusement, c'est une partie des féministes matérialistes, au nom de la critique des féministes postmodernes qui voudraient faire disparaître le sexe et faire du patriarcat uniquement des normes discursives. C'est oublier qu'on peut très bien être matérialiste, c'est-à-dire critiquer que le patriarcat, c'est pas simplement des discours, mais c'est aussi des rapports matériels de domination. Mais on peut aussi dire que ces rapports de domination matérielle n'engagent pas que des hommes cis, c'est-à-dire des hommes non trans, et des femmes cis, c'est-à-dire des femmes non trans, mais que ça peut inclure aussi des hommes trans, des personnes non binaires, même si évidemment, là... ça oblige à repenser en fait une bonne partie de la théorie féministe, ce qui est en cours, notamment dans les tentatives d'élaboration d'un matérialisme queer, dont on parlera dans une autre émission, parce que là on en a pas trop le temps. Et on peut aussi indiquer que Pateman tient des propos critiquables sur le travail du sexe et de reproduction, la GPA, la pornographie, les pratiques BDSM, sadomasochiste. Mais ça, on en reparlera dans une autre émission, parce que c'est évidemment des questions qui, en tant que telles et prises séparément, nécessitent une émission complète. Donc, dans les prochaines émissions, quand on critiquera la position des féministes radicales sur ces questions-là, eh bien, il faudra inclure Carole Pittman. Voilà, et eh bien, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette première émission de Sortir du patriarcat capitalisme autour du contrat sexuel de Carole Pittman avec Sophia. Et voilà, on espère que vous aurez trouvé intéressante la critique radicale du contrat, du patriarcat et du capitalisme qu'on retrouve chez Carole Pittman, même si vous serez vigilant et vigilante si vous lisez le livre sur toutes les limites qu'il contient et qui ont été que très partiellement dépassées dans ses travaux les plus récents. Donc merci aux auditeurs et aux éditrices et merci à Sophia.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie.